Mais bonsoir à tous et à toutes. Le 14 septembre 1848, une jeune femme nommée Juliette, âgée de 30 ans, née dans la ville de Sainte-Anne, demeurant au Moule, s'avance devant le maire du Moule, M. Jean Monroe, avec dans ses bras son petit garçon, Volant Charles, qu'elle a eu d'un père inconnu un an auparavant. Alors voyez-vous, le Moule est, du fait de sa situation géographique en Guadeloupe, en fait, on dit d'ailleurs que l'océan Atlantique s'assied sur le Moule lorsqu'il est fatigué. Le Moule est la première ville de la Guadeloupe, un port négrier actif au XVIIIe siècle, parce que convergent en fait le sucre qui vient de l'arrière-pays, qui est une plaine extrêmement importante. Alors, Juliette fait partie des 7058 femmes et hommes de cette ville qui attendirent le 27 mai 1848 pour devenir enfin libres. Ce 14 septembre, elle est parmi les 51 personnes qui vont ce jour-là être nommées. Parce qu'à l'époque, en fait, du temps où les personnes étaient esclaves en Guadeloupe, en Martinique, Guyane à La Réunion, elle n'avait comme identité qu'un prénom et un matricule. Et quel effet qu'elle a fait à M. Monroe, j'en sais rien. Mais sur le registre des nouveaux libres, il a inscrit cette phrase, fondatrice pour notre famille, la dite Juliette, nous ayant déclaré reconnaître le dit Volant Charles comme étant son fils, nous leur avons donné à tous les deux le nom patronymique de Romana. Alors le destin de la famille Romana va être remarquable, car le petit Volange, alors voilà, vous pouvez, si vous voyez, en fait, voici une rétranscription de l'acte de nomination. Vous avez donc en haut, Juliette, âgée de 30 ans, née à Sainte-Anne, demeurant au Moule, immatriculée sur le numéro 5322. Volant Charles, âgé de 2 ans, né au Moule, immatriculée sur le numéro 9812. La dite Juliette nous ayant présenté le dit Volant Charles comme étant son fils, nous leur avons donné à tous les deux le nom patronymique de Romana. Ainsi a commencé la lignée des personnes portant au Moule, en tout cas le nom de Romana. Alors, le destin des Romana va être assez remarquable par le petit Volant Charles, qui est en fait né esclave, va avoir 3 fils, dont mon grand-père. Donc le grand-père de mon père est né esclave. Et il deviendra maire du Moule. C'est assez fort, mais il deviendra maire du Moule. Et donc, là vous avez donc, si je vois bien, c'est son fils, donc le fils donc de Charles Volange, celui qui est né esclave, son premier fils, qui va nommer Charles Volange, et non Volange Charles comme lui, va devenir donc maire. Et l'histoire décrit les Romana du Moule comme une grande famille mulâtre, ayant la moitié des terrains de la ville. Et les gens, on me raconte que les gens baissaient les yeux devant les Romana lorsqu'ils les rencontraient. Et en fait, une étude plus précise de la généalogie familiale a montré que en fait, les Romana firent fortune à partir donc de l'esclave, du petit esclave, parce qu'en fait, Volant Charles, le fils de mon aïeul Juliette, se maria avec la fille d'une famille mulâtre, libre, depuis 1803, dont l'un des membres, Jean-Louis Minot, était devenu orfèvre. D'ailleurs, dans ma famille, on parlait tout le temps de l'or des Minot, mais on disait que c'était de l'or des Incas. Et la légende familiale a voulu, parce que c'est ce que mon grand-père m'a toujours raconté, que le nom Romana, eh bien, venait d'un négrier qui avait eu un enfant avec une mulâtresse et qu'il avait acheté le nom Romana. Et donc le nom de Juliette, de la fondatrice, ne fut jamais prononcé par mes parents. Sans sépulture identifiée, son nom se perdit jusqu'en 2006, où nous la retrouvâmes dans les archives à Paris. Voyez-vous, la couleur de la peau avait permis l'ascension et avait rejeté Juliette et ce qu'elle véhiculait dans l'oubli. Du côté de ma mère, qui est une demoiselle Montpierre, c'est aussi une grande famille mulâtre, propriétaire d'esclaves à Mornalo. Eh bien, un de leurs descendants, Charles, eut le malheur d'épouser Zélikaï, mon aïeule, que j'ai connue, qu'on appelait Bonne Maman, qui était la fille d'Adélaïde. Alors, j'espère que je vais retrouver. Ça, c'est Charles Volange. D'ailleurs, c'est sur son terrain qu'est construit la mairie du Moule que vous voyez là. Ça, c'est l'acte de nomination donc de la mère de Bonne Maman, Adélaïde. Et elle a eu Bonne Maman, encore une fois, avec un père d'origine inconnue. Et elle reçut son nom, Adélaïde, ce qui est marqué sur l'acte, avec le reste de sa famille, à l'âge de 17 ans, dans la commune de Port-Louis. Et l'union de cette négresse, ma Bonne Maman, avec ce Charles Montpierre, quelque part le renégat, qui s'était marié avec une négresse, entraîna le déshonneur familial. Il fut rejeté par la famille. Et voyez-vous, Zélikaï, ma Bonne Maman, ne parla à jamais à personne de la famille de sa mère Adélaïde. Vous voyez de ces récurrences de « j'ai pris simplement ma famille », vous voyez un certain nombre de lignes de force qui se dégagent, quelques observations peuvent être faites. La volonté de rupture avec le passé, la désaffiliation avec les aïeux qui ont été esclaves, la honte de l'origine servile, l'importance de la couleur de la peau, l'importance des hommes et des femmes et des hommes X dans ces sociétés. Et je peux vous assurer que ces observations peuvent être faites à partir de très nombreuses familles de descendants d'esclaves aux Antilles. Alors comment comprendre que cette histoire, par exemple, celle de la nomination collective, où en Guadeloupe, en 2 ans, près de 70 000 sur les 87 500 personnes qui ont été nommées, près de 80% de la population, eh bien cette histoire n'a pas été transmise dans les familles. Elle n'a jamais été transmise. Voyez-vous, l'acte de nomination de Juliette, parce qu'elle a reçu un papier ce jour-là, c'est bien qu'elle sache quel est le nom qu'on lui avait donné. Et on ne sait pas où est-ce qu'il est. Et je voudrais bien qu'un Antillais puisse me donner l'acte de nomination de ses parents, qui a été donné à partir de 1848. Franchement, apportez-le, s'il vous plaît. Où sont passés ces actes? Pourtant, ils ont été remis aux familles. Élément fondateur de la majorité des personnes des anciennes colonies françaises, la nomination est restée inconnue pour la plupart des Antillais jusqu'à la fin des années 2006, jusqu'à la fin des années 2000, en 2006, où les travaux du comité marche du 23 mai, que je préside, et que je représente quant au fond aujourd'hui, moi, la fit connaître cette histoire au plus grand nombre. Voyez-vous, l'ignorance de cette histoire, cette volonté très profonde qui a longtemps perduré d'oublier ce passé, ne peut s'expliquer que par la douleur ou la violence que produit l'évocation d'un tel passé. Mais vous avouerez avec moi, sincèrement, comment ne pas fuir ce passé-là? Comment ne pas fuir l'horreur et la destruction que fut l'esclavage colonial? Comment guérir des maux dont on vient de parler et de bien d'autres encore si on ne comprend pas cette origine et cette histoire? Alors, je vous invite ce soir à voyager ensemble à travers le temps de fondation des Antillais, entre autres, pour tenter d'en dégager quelques lignes de force qui ont construit ces sociétés. Je me présente à vous ce soir non pas en historien, non pas en spécialiste des sciences sociales, ni comme généticien que je suis professeur de médecine dans la moitié de ma vie, mais je me présente à vous comme descendant d'esclaves, fils de Juliette, d'Adélaïde et de Sophie, dont je ne vous ai pas parlé, de Marguerite, dont je ne vous ai pas parlé. Je ne peux pas vous parler parce que je ne connais pas les pères, pour la plupart. Et Je suis là, donc, comme descendant d'esclaves, qui, dans le cadre du comité marche du 23 mai 98, travaille avec d'autres pour comprendre, pour répondre aux questions que je vous ai posées plus haut, et pour tenter de donner sens, un certain sens à cette histoire. Mais d'emblée, je vous dis que nous savons aujourd'hui, comme le dit le rappeur Dead Kabbal, qu'abolir, ce n'est pas guérir. Ce soir, je souhaite vous parler du code noir, mais surtout de comment en sortir. Alors, on est obligé de faire un peu d'histoire, et on va en faire un petit peu, pour vous dire que, très rapidement, que l'esclavage colonial, vous le savez, est d'abord lié, avant tout, n'est pas un acte idéologique au départ, mais c'est d'abord un acte économique. C'est lié à l'essor du capitalisme européen en pleine phase d'accumulation. Si l'or a été la richesse des Espagnols qui ont pillé l'Amérique du Sud, les Français, les Anglais et les Hollandais, dans un premier temps, ne purent que se poster sur le chemin des galions pour qu'avec les corsaires, les flibustiers, ils puissent prendre un peu de cet or qui, bien sûr, n'était pas pour eux, puisqu'ils n'étaient pas là au tout début de la conquête et du partage du monde. Et là, ils s'étaient postés en Caraïbes, donc flibustiers, etc. Ce qui s'est passé, c'est que l'émergence du sucre comme matière première extrêmement prisée en Europe a été en fait le moteur de l'accumulation, de la stabilisation coloniale française, anglaise en particulier, à partir donc du XVIIe siècle, on peut dire en fait que les petites Antilles, pourquoi elles ont été le lieu où en fait cette économie s'est développée au départ, il faut bien comprendre que, et je cite en fait un économiste de notre région qui est de la Martinique, qui est un brillant économiste, Jean Cruzol, où il dit que si les îles et surtout les petites îles ont été historiquement les premiers territoires à se spécialiser dans la production sucrière, ce n'est pas parce qu'elles disposaient d'un avantage en termes de coûts comparatifs, comme le voudraient les théories économiques traditionnelles, mais parce que l'insularité avait l'avantage de rendre plus facile le contrôle de la main-d'œuvre esclave dans les dures conditions des plantations et de la production de sucre de canne. Parce que l'insularité, en fait, doit être perçue comme un cadre carcéral, une prison naturelle, offrant les meilleures conditions pour maintenir les hommes dans des conditions de travail, esclaves, et réprimer toute tentative de fuite. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses, et je suis d'accord avec cette phrase. C'est un excellent livre que je vous conseille, qui s'appelle « Les îles à sucre », qui est sorti donc en 2007. En fait, la main-d'œuvre, on la connaît, ce sont des Africains. Cette main-d'œuvre africaine a déjà été largement expérimentée, entre guillemets, dans le bassin méditerranéen, au Maghreb, dès le Xe siècle, par les Arabes. Les Français, les Anglais, les Hollandais vont suivre les Espagnols et les Portugais, qui ont commencé la traite négrière. D'ailleurs, personnage éminent, dès la traite négrière, dès 1444. Et je parle bien de traite. Je ne parle pas de la mythologie comme quoi les Européens sont allés et ont fait la guerre en Afrique, et puis, etc., etc. Je parle de traite. C'est-à-dire, je parle d'une vente d'individus. Vous avez par exemple une directive d'un prince du Portugal, le navigateur Henri de Navigateur, qui donne l'ordre au Portugais de renoncer aux captures d'esclaves, parce que c'est comme ça que ça avait commencé, et à la guerre avec les Africains, de chercher à établir avec eux des relations commerciales durables. Nous sommes même pas en 1450. Et donc, de nombreux travaux d'historiens montrent en fait qu'il s'agit d'un commerce organisé par des élites politiques et économiques européennes, africaines, arabes et indiennes. D'ailleurs, je tiens à signaler pour les Indiens que c'est intéressant parce que beaucoup d'esclaves à la Réunion venaient d'Inde. Donc, il n'y a pas que les Africains qui ont été mis en esclavage. de nombreux Indiens, c'est le cas à La Réunion, donc je vous dis, qui ont été également mis en esclavage. Le système en place est extrêmement lucratif. C'est le fameux commerce triangulaire. Et acheter des esclaves, les revendre dans les colonies, ramener du sucre non raffiné si possible, qui sera raffiné en Europe puis vendu. Donc le système est régi par l'exclusif colonial, c'est-à-dire que seules les compagnies nationales peuvent faire le commerce, les colonies ne pouvant acheter, du moins en théorie, que ceux qui viennent de la métropole et ne vendent qu'en direction de la métropole. Selon Frédéric Régent, historien, maître de conférence à l'université, le commerce colonial représente 40% des importations de la France en 1789 et 22% des exportations, des importations et 22% des exportations. Donc vous voyez, c'est un commerce qui est extrêmement important. Alors, en dehors de l'aspect inique, en fait, l'aspect totalement inique donc de ce commerce, et pour ça, donc, c'est intéressant de consulter donc Ruzol pour l'aspect économique, Régent, Nboukolo et les autres pour l'aspect historique. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est de penser le monde qui a été créé par cette traite, dont, évidemment, l'objectif n'est évidemment pas le génocide. Le génocide, c'est pour tuer les gens. Là, c'était pour qu'ils puissent travailler. Selon le site slave.org, et selon un historien qui s'appelle Hugues Thomas, les historiens s'accordent à ces chiffres, c'est 11 à 12,5 millions de captifs africains qui ont été déportés par 54 200 expéditions négrières. La durée moyenne est de 67 jours, 12% de mortalité parmi les captifs. Vous connaissez les conditions, vous avez ici le brick. En gros, on peut dire que ça se séparait globalement 42% pour les Portugais, 24% pour les Anglais, 11% pour les Français, acheminé vers les Caraïbes pour 36,5%, le Brésil 35%, l'Empire espagnol 22% et seulement 4,4% pour les USA. Pour les colonies françaises, qui nous intéressent plus directement, Saint-Domingue, c'est 864 000 personnes qui ont été déportées, qui sont arrivées, et la Martinique, 366 000 personnes, et en Guadeloupe, 291 000 personnes. Il est à noter un fort accroissement de la population aux États-Unis, à la différence de ce qui se passe aux Antilles. Aux États-Unis, il y a 500 000 arrivées. Et à l'abolition, il y aura 4 millions de personnes libérées. Alors qu'on observe un faible taux et plutôt une régression du nombre de personnes qui montre que les conditions de la culture de la canne à sucre étaient quelque chose d'effroyable. Puisque sur les 291 000 déportés arrivés en Guadeloupe, on obtient en 1848 87 500 personnes esclaves. Aux États-Unis, 500 000, 4 millions, là vous avez 250 000 à peu près. Et, donc aujourd'hui, la population qui est issue de cette histoire est chiffrée en général entre 64 et 124 millions d'habitants. En Caraïbes, au Brésil, aux USA, mais enfin dans toute l'Amérique du Sud, Brésil à peu près 43%, 24% pour les USA, 22% pour la Caraïbe. Concernant, et aussi c'est important, parce qu'il y a beaucoup de légendes là-dessus, l'origine des Africains vendus et déportés pour les Antilles françaises, là aussi il faut vaincre et mettre les mythes à terre. Ce n'est pas Gorée qui a été le port négrier le plus actif, mais très très loin de ça. D'ailleurs, Gorée, on pense que la fameuse maison des esclaves est une véritable mystification. C'est Ouida, c'est-à-dire le port négrier le plus important sur la côte des esclaves, Ouida au Bénin actuellement, Dahomey, me semble-t-il, avant. Et pour ce qui concerne l'origine ethnique des Antillais, en tout cas, des Guadeloupéens et des Martiniquais, on sait sur les études d'ADN que globalement, on retrouve cette notion, puisque globalement, on a, comme vous le montre cette diapositive, essentiellement, 74% viendraient d'un point de vue génétique du Bénin, 11% c'est des Bantous, donc c'est plutôt du Congo, et seulement 8% du Sénégal. D'accord ? Bien. Il y a donc eu, vraiment, puisque vous voyez, ça représente beaucoup de personnes, c'est des millions de personnes aujourd'hui dans le monde qui sont issues de cette histoire, on peut dire qu'il y a eu création réellement de nouveaux mondes. Et donc la question que nous nous posons, c'est quel nouveau monde? Et comment ce monde a été fabriqué? Comment il fonctionne? Pour l'anthropologue donc Christine Chivalon, elle rapporte donc ces chiffres que je vous ai donnés, elle dit que aucune autre traite auparavant n'avait créé des sociétés composées à plus de 90% par des esclaves, et surtout aucun autre modèle n'avait construit des spéculations autour de la couleur de la peau comme moyen de maintenir la cohésion de cet édifice social entièrement dévolu par ailleurs à la production économique. Chaque situation, bien sûr, a été particulière. Ce qui s'est passé aux États-Unis est certainement extrêmement différent de ce qui s'est passé en Guadeloupe et en Martinique, ne serait-ce que parce que, aux États-Unis, les esclaves étaient minoritaires, alors qu'ils étaient largement minoritaires en Guadeloupe et en Martinique, comme on le verra. Donc, territoire, nation colonisatrice, ethnie des déportés, ça a donné des spécificités et des créations différentes, même si le cadre global de l'esclavage était le même. Ce soir, nous allons voyager essentiellement dans les petites Antilles, en Guadeloupe et en Martinique, dont la situation est radicalement différente, comme je viens de vous le dire, de celle qui existe pour les esclaves qui sont au Suriname, puisque au Suriname, il y a un arrière-pays, il y a pu avoir constitution de peuples issus réellement de Marrons. Il y a beaucoup de Marrons en Guadeloupe et en Martinique, beaucoup de descendants de Marrons. Les vrais Marrons se trouvent au Suriname en particulier, parce que là, c'est vraiment des descendants de Marrons. Les Saramaka s'en est. Comme je l'ai dit, aux États-Unis, ils sont très minoritaires. Chez nous, en Guadeloupe, par exemple, en Martinique, c'est à peu près la même chose. La situation démographique est la suivante. En 1789, c'est ce qu'il y a en bas. En gros, il y a sur 110 000 habitants, il y a 84% d'esclaves. Il y a 13% de blancs, donc à peu près 10 à 12 000 blancs, dont seulement 2 000 sont propriétaires, et 3% de libres de couleur. Quel est l'objectif d'un planteur? C'est de fabriquer des esclaves, c'est-à-dire des êtres soumis. C'est ça son objectif. Quels sont les moyens qu'il a? C'est l'Église, la violence physique, la violence psychique et l'invention de quelque chose d'extraordinaire qui va perdurer sur des siècles et des siècles jusqu'actuellement, qui est le préjugé de couleur. Et c'est ce préjugé de couleur, donc, né dans l'esclavage, pour l'esclavage, qui se généralisera ensuite dans les sociétés occidentales sous la forme que l'on connaît du racisme antinègre. Alors, les lois qui régissent l'esclavage colonial sont regroupées en fait dans un recueil de règlements qui est appelé par l'administration le Code noir. L'élément central de ce code, c'est l'édit du mois de mars 1685 qui est élaboré par Colbert. L'édit ne comporte que 38 pages. Et il sera incrémenté par la suite d'ordonnances royales et de décrets que les gouverneurs et les intendants vont mettre pour cadrer au mieux avec la population. Par exemple, l'augmentation des libres de couleur va faire qu'il fallait légiférer sur les libres de couleur, ce qui n'était pas le cas en 1685. Je vous ai montré la situation en 1685 de point de vue démographique. Il y avait autant de noirs que de blancs, et très peu d'hommes de couleur libre. D'ailleurs, au départ, il n'était pas prévu les hommes de couleur libre. Ils étaient mis dans des couvents. Le Code noir donc de 1767 contient 446 pages. Celui de 1788 contient 636 pages. L'édit de mars 1685 n'occupe que 38 pages dans tout ça. Et l'édit de mars de 1724, qui concerne essentiellement la Louisiane, est un peu différent. Il est beaucoup plus sévère que l'édit de 1785. Et vous verrez qu'il est déjà très sévère, celui-là. Alors l'édit, donc qu'on appelle communément Code noir, mais je pense que vous l'avez compris, qui est un élément du Code noir, est composé de 60 articles qui règlent la vie des colonies pour maintenir les hommes en esclavage. Alors les 8 premiers articles sont consacrés à l'encadrement spirituel. Il faut signaler que la France abolit l'esclavage sur son territoire dès le 3 juillet 1315. Il y avait de l'esclavage hein, avant en Europe. entre guillemets, l'esclavage, ça vient de slaves, donc c'était des slaves qui étaient esclaves. Mais la France a aboli l'esclavage en juillet 1315. Il y a un édit du roi de France qui s'appelait Louis le Hutin qui affirmait que selon le droit de la nature, chacun doit naître franc. Officiellement, depuis cette date, le sol de France affranchit l'esclave qui le touche. Donc, installer et officialiser l'esclavage par la royauté française n'était pas quelque chose de si évident que ça. Évidemment, il fallait installer l'esclavage. Et donc, Louis XIII accepte le principe de mettre l'esclavage des nègres en 1642. Il l'accepte sur la base de l'obligation d'évangéliser les sauvages. C'est l'argument qui est accepté et qui est honorable, qui est donc acquis pour, en bonne conscience, première fille de l'Église, bien sûr, installer l'esclavage dans les colonies françaises. Alors, comme je vous disais, le premier article, et alors c'est assez impressionnant, puisque les premiers articles, articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 14, traitent de la religion catholique, apostolique et romaine, et de l'obligation du baptême. Vous voyez d'où ça vient. OK ? Et il est extrêmement intéressant de signaler que l'article 1 du Code noir ordonne de chasser les Juifs des colonies. Alors, il dit, « Ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser hors de nos îles tous les Juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d'en sortir dans 3 mois à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens. » Alors, Jean Cruzol, toujours, nous rappelle la chose suivante, c'est que des Juifs hollandais, en fait, descendants des séfarades qui avaient été chassés d'Espagne par l'Inquisition, qui s'étaient installés au Brésil, avaient, suite à la guerre entre les Portugais et les Hollandais, eh bien, avaient fui le Brésil et avaient atterri, en Guadeloupe et en Martinique, et avaient transféré la technique de blanchiment du sucre qui avait été développée au Brésil. Et donc, c'est eux qui ont amené cette technique. Et donc, ils s'étaient installés. Et donc, ils s'étaient installés. Et donc, ils ont été chassés pour des raisons tant politiques, tant économiques, mais également donc, d'ordre religieux et donc politique. Je vous rappelle également que nous sommes dans un contexte où, en 1685, lorsque est publié l'édit de Nantes, c'est en même temps l'année où il y a la révocation, donc, pas l'édit de Nantes, l'édit donc de 1685 sur l'esclavage, et c'est la même année où le 22 octobre, l'édit de Nantes est abrogé. Donc, on est dans un contexte où il y a une affirmation de la religion catholique. Alors, c'est l'interprétation que j'en fais, mais je vous la livre, hein, c'est comme ça que je la vois, puisqu'on se dit toujours, oui, voilà, les religions ont mis, etc. Oui, je pense que c'est vrai. La religion catholique, en tout cas les chefs de la religion catholique ont participé à ça. En ce sens, je pense que, quant au fond, c'est un vrai crime. Mais là, en l'occurrence, pas contre l'humanité, mais c'est contre Dieu lui-même. Parce que ça va contre tous les principes, en tout cas, si on prend les principes bibliques, en tout cas la vie qui est de la divinité chrétienne majeure à l'époque, c'est-à-dire le Christ, totalement à contre-pied. Alors, les articles 9, 10, 11, 12, 13 concernent la famille esclave, sont les bases de la matrifocalité antillaise, puisqu'ils définissent en fait le rôle et la femme, et surtout, ils posent la question suivante, et ils répondent à la question suivante, à qui appartiennent les enfants? Quand même une question essentielle, dans une famille, en tout cas étrange, mais en tout cas fondamentale. Et vous avez ici 2 articles très cités lorsqu'on parle de la structuration de base de la famille esclave et des familles antillaises, qui sont l'article 12 et 13, où, vous voyez, les enfants qui naîtront de mariage entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres, non pas des hommes lorsqu'ils sont séparés, mais des femmes esclaves. D'accord ? Et voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants, tant mâles que filles, suivent la condition de leur mère, et soient libres, comme elles, nonobstant la servitude de leur père, et que si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement. Donc les enfants suivent le statut de la mère. Alors, j'ai lu récemment La bibliographie de Frederick Douglass, c'est l'une des bibliographies la plus, qu'on pense la plus authentique de toute une série de récits narratifs des esclaves aux États-Unis, ce qui n'existe pas du tout aux Antilles françaises. Et il disait, parce que lui, il est issu également il est issu d'un accouplement, je ne sais pas comment dire ça, entre un maître et une femme esclave, qu'il a très peu connue d'ailleurs. Et il disait, mais c'est super pour les maîtres, parce qu'en fait, ils font des enfants avec les esclaves, avec cette loi, ils peuvent ne pas s'en occuper, donc ils s'écoulent. Ils peuvent faire autant d'enfants qu'ils veulent, c'est la femme qui doit s'en occuper, eux, ils s'en foutent. Et il disait, mais c'est une situation catastrophique pour nous, parce que les femmes des maîtres, eh bien, comme elles le savent, on est vraiment dans une situation difficile, puisqu'on est encore beaucoup plus, on est surveillé par cette femme, on est brutalisé par cette femme, etc., etc. C'était son vécu à Frederick Douglass. Les articles 15, 16, 17, 18, 19 portent sur les non-droits des esclaves, interdiction de circulation, de rassemblement, de vente des marchandises. Les articles 26, 27, 28, 29 interdisent aux esclaves toute possession. Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui soit à leur maître. Et tout ce qui vient par industrie et par la libéralité d'autres personnes ou autrement à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leur maître. Bref, etc., etc. Vous voyez un peu le dispositif extrêmement répressif. Les articles 30 et 31 portent sur l'absence des droits civiques, métiers, être juridique, ils n'ont pas du tout d'existence. Les articles 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, bon corps, portent sur les violences. L'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse ou le mari de sa maîtresse, ou leurs enfants avec contusion, effusion de sang ou au visage, sera puni de mort, article 33. Mais quand même, il existe deux articles de protection sur les 60. C'est pour ça que des fois on disait que le code noir, en fait, il régule un peu l'esclavage. 42-43, c'est sur la protection et les abus des maîtres sur les esclaves. Et puis là, on arrive au fameux statut de marchandise des esclaves. Ça concerne donc 10 articles, 44 à 54, avec le fameux article 44, dont le début c'est « Déclarons les esclaves être meubles et, comme tels, entrer dans la communauté, n'avoir point de suite par hypothèque, etc., etc., etc. » Pour pratiquement finir, nous arrivons aux articles 55, 56, 57, 58, 59, qui traitent de l'affranchissement. Et là, en gros, la philosophie, en fait, hein, c'est que l'affranchi, c'est très important, on l'a vu lorsqu'on a consulté les articles, l'affranchi naît le jour de son affranchissement. C'est-à-dire, lorsque vous avez un registre d'état civil, vous avez rayon naissance, mariage et décès. Et en fait, vous avez donc les gens libres qui naissent à zéro, à un jour, enfin bref. Et vous avez là toute une série de gens qui naissent à 24 ans, 30 ans, parce qu'ils sont affranchis. Donc on naît à la civilisation avec l'affranchissement. Et puis surtout, même si vous êtes affranchis, commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres. C'est-à-dire, vous êtes affranchis, mais c'est exactement comme les haratines aujourd'hui de Mauritanie. Vous avez toujours, et pour les temps et les temps, la marque de l'esclavage et de la servitude sur vous. Puis le dernier article, l'article 60, rappelle que l'autorité fiscale est celle du roi. Les esclaves sont des marchandises. Vous avez ici, sur cet acte de succession, puisqu'on y travaille actuellement, acte de succession établi par des notaires, vous avez donc, lorsqu'il y a des ventes de propriétés ou des successions, vous avez évidemment la valeur du patrimoine du maître, de l'habitant. Et donc, ce sont des documents extrêmement intéressants qui vous montrent, ici c'est un acte de succession de quelqu'un qui est dans la salle d'ailleurs, qui a donc, qui se reconnaît, et vous avez le prix de chaque individu. Vous pouvez avoir les descriptions très précises, c'est-à-dire tel esclave vaut tant d'argent, elle vaut moins parce qu'elle a des hémorroïdes, ou elle a un bras cassé, ou elle est infirme, ou etc., etc. On a des renseignements extrêmement précis. C'est assez intéressant parce que ça veut dire que l'administration française notait tout. Et c'est quelque chose pour, actuellement qui nous sert énormément, comme on va en discuter après. Donc, si le code noir fixe un cadre légal de ce système qui est monstrueux, j'y reviendrai pas, je pense que tout le monde est convaincu, ce système va durer dans les Antilles françaises 213 ans, soit une dizaine de générations. Il ne dévoile pas toutes les stratégies mises en place pour imposer en fait, le système aux hommes et pour qu'ils intègrent intimement ces principes. Dans certains cas, vous avez des planteurs qui théorisent la façon dont il faut s'y prendre pour former de bons esclaves et avoir des plantations qui fonctionnent. Alors, il y a un texte qui circule, qui aurait été écrit par un planteur en 1712, qui s'appelle Willie Lynch, que je n'ai volontairement pas reproduit ici, parce que on ne sait pas vraiment, on ne l'a pas vraiment retrouvé. Mais ce texte dit qu'il faut diviser les esclaves en couleurs, en âge, etc., et que ceci va rentrer dans leur comportement et va perdurer des dizaines, des milliers d'années, etc., etc. Et il propose de faire ça plutôt que de battre les esclaves, puisque ça fait perdre de la marchandise et ce n'est pas très intéressant. Mais ce qui est clair, c'est que nous avons retrouvé un texte, qui est le texte donc de Poyen de Sainte-Marie en Guadeloupe. Alors malheureusement, je n'ai pas pu l'avoir, mais parce que pour les questions techniques. Hein. Mais c'est un texte qui a été édité par le gouverneur de la Guadeloupe, Daniel Lescalier, et qui a été réédité après 1802, lorsque Bonaparte avait rétabli l'esclavage. Et là, c'est un texte authentique. Il est intitulé « Conseil d'un vieux planteur aux jeunes agriculteurs des colonies » et c'est un vrai manuel de fabrication des esclaves. C'est-à-dire que vous avez une étude scientifique de quel type d'Africain, quelle nation. Ceux-là, il ne faut pas tellement les prendre parce que, etc., etc. Si vous voulez avoir un mouchard dans l'habitation, il faut prendre un Africain qui n'a pas de connivence avec les créoles. Il faut prendre un commandeur qui est un nègre véritablement, parce que sinon vous attisez trop les problèmes de contradiction avec les blancs. Enfin bref, il y a vraiment, c'est un manuel de fabrication d'une bonne application esclavagiste, qui devait être donc appliqué par, qui était conseillé d'appliquer pour différentes, évidemment, habitations. Et l'une des questions qui est traité dans ces textes, c'est la question qu'il faut diviser donc les esclaves. Et cette division atteint son sommet avec l'intégration dans ces sociétés du préjudice de couleur. Au départ, la société, elle est binaire. Il y a des noirs, il y a des blancs. Les choses sont claires. Mais la société va se complexifier parce que les mulâtres apparaissent. Parce que, voyez-vous, les planteurs ont su très rapidement que les femmes esclaves étaient humaines. Et ils ont expérimenté, et il est né de nombreux métis qui n'étaient pas prévus dans la société. Au départ, ils ont été confinés dans des couvents, ils étaient libres, puis ils ont suivi la condition de la mère, donc esclaves. Mais ils eurent rapidement une place particulière dans la société. Les métis, on verra que c'est beaucoup plus compliqué que ça, formaient la majorité des libres, dont le poids dans la société inquiéta les Blancs. Et à ce moment-là, ils renforcèrent les arsenaux juridiques contre les Métis. C'est très simple. Voici par exemple des échelles de couleurs que vous avez, vous voyez. Nous sommes des spécialistes de la couleur, nous. C'est-à-dire que vous voyez donc différents niveaux de croisement. Et ça, c'est rien. C'est rien parce que il y a le noir qui peut être bleu. Vous avez le noir, le gros noir. Vous avez le nègre rouge. Vous avez le chabin. Vous avez la peau sapotille. Vous avez le chabin doré. Vous avez la peau sauvée. Vous avez... C'est très fort. Lorsque vous dites que c'est très fort, c'est que c'est instinctif. C'est-à-dire, quelqu'un me voit en Guadeloupe et son GPS est réglé sur ma situation. C'est extraordinaire, cette histoire. Comment ça c'est devenu quelque chose d'automatique, d'instinctif. C'est un système colorimétrique qui carrément rentra dans notre ADN. C'est entre parenthèses, bien évidemment. Et là, par exemple, vous avez différentes façons de considérer quelqu'un en considérant 128 générations. Et selon le partage de blanc et de noir dans vos générations, la quantité, vous avez des catégories particulières. On en dénote énormément. OK ? Donc, ça devient même mathématique. Et Bougnol va dire quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, ça, c'est pour vous montrer le prix sur une habitation des esclaves qui varie selon le métier, selon la couleur, et selon le sexe, et selon que vous soyez créole ou bossal, bossal étant l'Africain qui vient de débarquer. Vous avez là la compréhension intime des divisions profondes qu'il y a dans ces sociétés, qui ont été construites profondément dans la division, puisque l'individu a un prix, donc une valeur, en fonction d'une position, d'une situation de métier ou colorimétrique, ou s'il est créole, pas créole, etc., etc. Puis là, vous voyez, c'est le livre de Régent qui décrit ça, c'est l'influence de la couleur sur la liberté, puisque là, vous avez sur des libres la proportion d'individus libres dans la population des libres en fonction de leur couleur de peau. Vous comprenez que, oui, c'est vrai, une femme a un enfant avec un maître, elle n'est pas très contente pour X raisons, et toutes les femmes ici peuvent comprendre ça. Mais lorsque va naître un enfant clair de peau qui peut être protégé dans l'habitation, la situation devient beaucoup plus, en termes stratégiques, beaucoup plus nuancée. C'est-à-dire, la nécessité d'éclaircir, entre guillemets, la race est une façon de pouvoir obtenir la liberté. Et c'est donc ce système colorimétrique, ce préjudice de couleur qui est parfaitement bien développé dans le bouquin de ce sont des chiffres issus du livre donc de l'historien Frédéric Régent, qui va faire en fait que Jean-Louis Bougnol, professeur Jean-Louis Bougnol de Montpellier, en analysant la situation et les conséquences de ces histoires dans le monde antillais aujourd'hui, va dire quelque chose d'assez fantastique dans son livre « La couleur comme un maléfice ». Il dit « Lors de la découverte du Nouveau Monde », je ne sais pas si... Ah, oui, ça c'était pour vous dire en fait que quelques dates repères sur nos sociétés antillaises, elles sont françaises depuis 1635, les Européens ont découvert la Guadeloupe et la Martinique en 1493 et 1502, Guadeloupe-Martinique, conquises par les Français en 1635. Elles sont donc françaises depuis 378 ans. Et sur ces 378 ans, tout ça a duré pendant 213 ans. Donc quand même, c'est un système qui a duré plus de la moitié du temps de vie de ces sociétés. Elles sont en non-esclavage depuis 165 ans. Et elles sont restées colonies pendant 311 ans. On n'est plus colonies d'un point de vue administratif depuis 1946. Ça, c'est les descriptions de on va dire, les conséquences, en fait, hein, de cet état de fait, de la réalité, en fait, hein, de l'esclavage. Et c'est Schellcher qui raconte comment ce qu'il a vu en 1842, lorsqu'il a débarqué donc en Guadeloupe et en Martinique, où il dépeint la vie donc des esclaves, où il dit que de toute façon le seul jour où le nègre goûte c'est le seul jour de la mort où le nègre goûte l'oubli de la vie sans le réveil du fouet. Voilà. Parce que, en fait, le fouet est partout, il est omniprésent, c'est... Voilà. Donc, Voici le quotidien, en fait. Et puis vous avez donc comme résultat, ça c'est, il y a beaucoup de littérature là-dessus, mais beaucoup de témoignages à ce moment-là d'abolitionnistes là-dessus. Là, vous avez le témoignage de l'abbé du Goujon qui est aux Antilles dans les années 42 aussi, contemporain de Schœlcher, qui raconte comment toute une série d'attitudes ont été profondément intégrées en fait dans la population. Mais ça, on le connaît, hein, on connaît ça chez nous, où on a d'immenses proverbes pour parler de nous de façon extrêmement péjorative. Vous avez donc en fait un système donc qui a été mis en place, pendant extrêmement longtemps, un système donc qui a fabriqué ces sociétés. Alors bien sûr, il y a eu de la résistance, c'est évident. Il y a eu de la résistance, il y a eu des guerres, il y a eu des révolutions. Il y a eu une révolution qui a abouti, c'est celle d'Haïti. Mais je pense que ce à quoi il faut qu'on réfléchisse sérieusement, c'est surtout qu'il y a eu la formation de nouveaux groupes humains qui ont en fait intégré à l'intérieur d'eux-mêmes, et ça c'est des fois difficile à admettre, mais qui ont intégré des éléments à l'origine même de leur fabrication. Et donc, nous savons, hein, j'ai montré tout à l'heure ce que du Goujon a assisté sur la plage, mais par exemple, là, il raconte qu'ils avaient une esclave qui pousse un cri furieux, saisit un énorme caillou et frappe à coups redoublés le dos d'un autre noir qui reçoit ses mauvais traitements sans résister et sans se plaindre. Alors, cette vue, je cours vers eux et crie à l'auteur de ces brutalités, mais que faites-vous, misérable? Vous allez tuer cet homme. N'avez-vous pas honte de le maltraiter alors qu'il est votre frère? Et il répond, c'est ainsi qu'il faut traiter ces gens-là. Bref, des témoignages de ce type, on va en trouver de très nombreux. Et ce qui est assez étonnant, c'est le point de vue réellement des abolitionnistes et de montrer à quel point l'esclavage lui-même va profondément rendre les esclavagistes monstrueux. L'esclave se trouve dans une situation dramatique, mais l'esclavagiste est rendu monstrueux, la société est monstrueuse. Parce que se développe chez l'esclavagiste un racisme qui n'a pas de nom, qui est monstrueux tout simplement. Là, par exemple, vous avez des dialogues en 1839 d'une commission qui était chargée de prévoir à l'abolition de l'esclavage. Parce qu'en fait, on savait qu'il fallait abolir l'esclavage puisque c'était pas rentable économiquement. Mais le problème qu'il y avait, c'est le problème de on va abolir l'esclavage, mais on ne peut pas faire des sociétés qui sont économiquement barbares. Donc, il faut réfléchir à comment éduquer les nègres pour qu'ils puissent continuer à travailler sans le fouet. Et c'était la question posée. Est-ce qu'en abolissant l'esclavage, les nègres vont travailler sans le fouet? C'était une vraie question qui était posée. Et cette commission s'est réunie plusieurs jours pour tenter de répondre à cette question. Alors, vous avez par exemple la position des planteurs qui pense ça. Voilà, nous voyons toutes les autres races avoir une époque de grandeur, il n'y en a pas du tout pour la race africaine. Le nègre de la côte occidentale, élément principal de la population des Antilles, est susceptible d'une civilisation relative. Mais on sait qu'il y a des populations dans le Midi, du continent africain, qui ne parlent même pas. Mais sous l'influence de la religion chrétienne, l'esclavage est devenu, pour la race africaine, le premier pas fait dans la civilisation. Mais ça, ce rapport, le rapport Tocqueville, met vraiment fourmille de ça. Ce qu'il faut comprendre en dehors de l'aspect rigolo que ça a aujourd'hui, c'est le regard que les hommes portent sur les hommes à ce moment-là et la monstruosité qui est en eux, comment ils voient d'autres hommes. C'est ainsi, à mon avis, qu'il faut comprendre ça. Et vous savez, le regard, en fait, des abolitionnistes, et je ne prends pas le plus petit, je prends Victor Schœlcher, qui voit la société esclavagiste, la société d'esclaves qui voit, qui visite les habitations. Il en sort avec cette phrase. « Voyez les chefs de famille flagellés en présence de leurs fils, époux et pères, et ne pouvant défendre leurs femmes, leurs jeunes filles, les êtres de leur amour que l'on dépouille et auxquels on inflige profane supplice, tout concourt évidemment à éloigner l'esclave, l'homme esclave, d'une position de père. » Et je pense que nous sommes nombreux à penser que la personne qui a été, l'individu qui a été le plus atteint, en fait, dans tout cela, c'est effectivement l'homme esclave. Parce que non seulement légalement il n'a pas le droit sur sa famille, mais deuxièmement, il est incapable de défendre femme et enfant. Or, vous savez que les hommes ont acquis les positions qu'ils ont dans les sociétés parce qu'ils ont fait la guerre, parce qu'ils ont fait les sociétés. Les hommes esclaves n'ont pas fait les sociétés. Ils sont donc dans une situation particulière qui renforce en fait la position qui leur est dictée par la loi, les articles 12 et 13 du Code noir, tels que je vous les ai énoncés tout à l'heure. Voilà ce que Schelcher va dire. L'esclavage rend l'homme vicieux et il a peut-être raison. Criminel, la peur, le concubinage, l'infanticide font de l'esclavage des nègres une injure, en fait un crime contre l'humanité. Et il va dire quelque chose de terrible en fait. Il va dire que la régénération des colonies françaises, par l'abondante infusion de jeune sang des émigrés, ce qu'il pensait qu'il fallait absolument pour régénérer les colonies, faire une émigration de Français qui viennent en Guadeloupe et en Martinique pour que l'abolition puisse réellement aboutir. Il disait que cette infusion de jeune sang dans les émigrés, des émigrés dans les veines de ces corps plus malades que caducs, se lie à l'affranchissement des Noirs et viendra lui prêter un efficace secours. C'est pour vous dire quand l'effet de 213 années, de 213 années va produire en fait. Il faut imaginer qu'est-ce que ça peut produire sur une population. Souvent nous voyons l'aspect les nègres marrons, etc., mais ça, c'est une minorité chez nous. C'est à peine 3% de la population. La réalité, c'est que ça fracture des individus. Ça fracture vraiment des individus. Et c'est cette question qu'il faut se poser. Quelles sociétés qui ont été construites dans l'esclavage? Alors, ces théories racistes, en fait, vont prendre donc naissance dans les colonies, dans les territoires esclavagistes. Elles vont prendre naissance là et elles vont, donc 16e, 17e siècle, 18e siècle, et elles vont envahir en fait le monde occidental. Elles vont envahir le monde occidental. D'abord, il y aura un racisme scientifique qui va être développé. De grands chercheurs comme Morton aux États-Unis, Agassiz, ou Broca, ou Cuvier, en France en particulier, vont théoriser, vont expérimenter que les cerveaux des nègres sont plus petits, etc. Ils vont faire des expériences, publier, etc. Ça va faire la loi scientifique, c'est tout le développement du racisme scientifique. Mais par exemple, pour vous donner une idée, et Myriam Cotillas a très bien montré ça, en tout cas l'a bien écrit, le terme blanc n'était pas utilisé en France avant l'esclavage. Les Français se désignaient comme Français, comme Hollandais, etc. Le terme blanc a pris naissance dans les colonies, c'est-à-dire que les esclavagistes se sont désignés comme blancs par rapport, en fait, aux esclaves. Le racisme a pris naissance là. Il s'est diffusé après, non seulement par les théories scientifiques, mais également après, bon, les expositions coloniales. Là, ici, j'ai un de mes amis qui va peut-être parler tout à l'heure, d'ailleurs, s'il est dans la salle, qui est libraire d'édition antique et qui vient de publier un recueil où il a déniché des recueils d'images de blancs dessinés qui se sont diffusés au XXe siècle, début du XXe siècle, en Europe. Et vous voyez, par exemple, les images classiques que vous connaissez, il y a Bombanani, etc. Ça s'est diffusé à partir de ça. Ça a pris naissance dans les colonies esclavagistes. Aux États-Unis, ça a été encore pire parce que l'esclavage était aux États-Unis, mais il n'était pas en France. Mais ça s'est diffusé en France par donc les comics, enfin les bandes dessinées, les expositions coloniales. Vous avez différentes images, il en a énormément qui sont extrêmement intéressants pour voir un peu comment les choses sont. Ce qui, au sortir donc de, on comprend parfaitement bien donc, et vous le comprenez, que Juliette n'ait pas eu envie de raconter son histoire. Vous comprenez donc que ma grand-mère, ma bonne maman Zélie, Caï, elle n'a jamais parlé de sa mère esclave. Vous comprenez peut-être pourquoi les actes de nomination, enfin ça j'arrive pas à comprendre quand même. Comment ils ont été totalement je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Mais ce que vous comprenez, c'est qu'au sortir de l'esclavage, il fallait oublier ça. Pas seulement du fait de la République française, qui certainement s'est sentie coupable énormément, on le sent dans les discours de Schœlcher, mais de la part même de la société esclave. Il ne fallait pas penser à ça. Il fallait penser à comment sortir de l'esclavage. Certains ont réussi à sortir de l'esclavage, ont pu saisir la fabrication du citoyen qui était tendu par la République, en parlant bien le français, par l'école, etc. sont devenus fonctionnaires. Enfin, on connaît toute cette histoire. Il y a eu des Césaires. Mais la grande majorité des descendants d'esclaves sont restés réellement dans une situation catastrophique. Donc, là encore, il fallait vraiment, vraiment, ils étaient le repoussoir, en fait, de la société. Il ne fallait pas du tout parler de ça. Donc, on comprend, je pense, qu'on comprend toute une série d'échelles colorimétriques qui existent aujourd'hui chez nous. On comprend les questions donc de division sur la base des couleurs de peau. On comprend pourquoi les personnes qui ont réussi, entre guillemets, deviennent l'équivalent de ceux qui ont la peau chapée. On peut comprendre donc toute cette échelle colorimétrique, mais cette échelle du savoir qui va se constituer au 19e, 20e siècle. Et je pense que la République française donc a fabriqué des citoyens après 1848. Les royautés avaient fabriqué des esclaves chrétiens, entre guillemets. Et que ceci est donc notre héritage. Il est notre héritage. Bien sûr, nous avons créé des musiques, c'est évident, puisque nous sommes des hommes. C'est évident tout ça, que nous avons créé des choses. Mais je pense que nous portons avant tout les traces, les éléments d'un groupe humain qui a été fabriqué dans l'humiliation, la souffrance, le paradoxe des relations entre maître et esclave, entre citoyens colonisés, entre métropole, qui à des moments va protéger contre les anciens maîtres. Donc nous avons en fait des aspects extrêmement paradoxaux à l'intérieur de nous-mêmes. Et vous voyez, dans ces situations, les descendants d'esclaves, que ce soit aux États-Unis, partout sur Terre, ont systématiquement adopté les mêmes stratégies pour sortir de la catastrophe, de la misère, de la honte et surtout de la mésestime de soi. Et voyez-vous, au tout début, ils ont refusé l'esclavage comme temps de fondation. Donc, chez nous, ça a été l'assimilation. Ça aussi, on peut comprendre. Césaire a présenté la loi d'assimilation, pensant effectivement que ça allait sortir les Martiniquais de la misère. C'est l'exemple le plus abouti du refus du temps de fondation qu'est l'esclavage. Et ça, pendant plus d'un siècle et demi après l'abolition de l'esclavage, cette tendance existe toujours. Il y a une variante américaine de ça, me semble-t-il. Il me semble que la lutte qui a été essentiellement menée par le docteur Martin Luther King pour justement les droits civiques était également de cette lignée. C'est-à-dire, c'était regarder comment avoir les mêmes droits, comment sortir de la misère. Et ceci est quelque chose de logique et de normal. Ne pose pas donc la question identitaire, la question mémorielle, la question liée à l'esclavage. Ça, c'était une tendance. Une deuxième tendance qui existe et qui a existé, ça a été plutôt un nationalisme soit local, comme il a existé en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à la Guyane, mais qui a existé aussi aux États-Unis. Les Black Panthers, c'est ça. Malcolm X, ça a été ça à un moment. Mouvements qui ont, eux, ont pris l'esclavage, sont partis aussi de l'esclavage, ont parlé de l'esclavage. D'ailleurs, qui ont probablement ont échoué politiquement, que ce soit aux Antilles françaises ou aux États-Unis, ils ont échoué politiquement à créer des États de Black Power, etc., etc. Mais ils ont bouleversé, en fait, l'échiquier en termes culturels. c'est Angela Davis et la coupe afro. C'est la dénomination aujourd'hui que les Américains adoptent, alors qu'on dit que c'est la stratégie de Luther King qui a triomphé. Bien, les Américains s'appellent des Africains-Américains, et ça, c'est Malcolm X qui a échoué politiquement, mais qui a influencé énormément, d'un point de vue culturel, la société américaine. De même, en Guadeloupe et en Martinique, les mouvements nationalistes qui ont échoué politiquement ont entraîné une vraie révolution culturelle dans nos pays. Eux utilisaient l'esclavage comme matrice pour se battre contre les Français. Pas tellement comme temps de fondation, mais pour se battre contre les Français, comme matrice de combat contre les Français. Une troisième tendance est une tendance l'Afrique doit être l'événement, doit être rédemptrice en réalité. Alors, vous avez différentes variantes. C'est le panafricanisme que l'on connaît de Garvey, et qu'on connaît dans les mouvements qui existent aujourd'hui. C'est des mouvements égyptiens, ou c'est le retour à l'Égypte, carrément. C'est aujourd'hui une sorte alors, c'est une méta-histoire, l'histoire du peuple noir, qui aurait subi, en fait, l'esclavage. L'esclavage n'est qu'un passage, de souffrance infligée aux Noirs, aux Africains, dont les descendants seraient une diaspora. Et l'union des peuples noirs devrait permettre de sortir par le haut. L'une des stratégies de ce mouvement, c'est de poser la question des réparations, comme, encore une fois, antagonisme, non plus avec une république ou un pays, mais en termes de mouvement global, donc une histoire d'un peuple noir, et une revendication globale de pouvoir avoir donc des réparations pour le méga crime contre l'humanité, etc., etc. Aux Antilles, il est né une autre stratégie encore à celle que je viens d'énoncer. Elle a été initiée par Césaire. Césaire dit, en fait, dans un des textes célèbres, qu'il habite une blessure sacrée, il parle de l'esclavage. Qu'il habite des ancêtres imaginaires, il habite un long silence, il habite une soif irrémédiable. La pression atmosphérique, ou plutôt l'historique, agrandit démesurément mes mots. Il reconnaît les mots. Il reconnaît la blessure sacrée. Il ne sait pas comment faire avec, mais il la reconnaît. Et d'une certaine façon, il parle d'elle. Et à partir de Césaire, en Martinique, va naître en fait des théoriciens, dont l'un le plus connu, évidemment, et glissant, qui vont, eux, accepter l'esclavage comme temps de fondation. Pour eux, la traversée du milieu, c'est le temps zéro. Mais il y a une absence de mémoire historique. Il y a des sociétés dites crasées au départ. Mais glissant, après, va penser qu'on a tort de réfléchir comme ça, c'est-à-dire de réfléchir, il faut un mythe de fondation, il faut une racine profonde, il faut, parce que si on réfléchit comme ça, comme on n'a pas ça, eh bien, on utilise les concepts, en fait, des occidentaux, et c'est un leurre. Donc, il va plutôt penser, que nous sommes dans une situation, ce qu'il appelle rhizomique, c'est-à-dire des racines qui ne sont pas ancrées, mais qui s'entremêlent, plutôt qu'une racine, une seule et unique racine, pour définir, donc il appelle ça des rhizomes. Il voit un monde en relation qui crée une identité qui est en perpétuel mouvement. Donc vous voyez que là, on part quand même de l'esclavage, on tente de donner une interprétation de tout ça. Et les écrivains, les artistes se disent, nous pouvons penser les choses et nous pouvons créer un corpus de textes, de littérature qui va permettre d'habiter en fait l'imaginaire de ces sociétés. Alors, le problème, c'est qu'en général, toutes ces théories, que ce soit le panafricanisme ou autre, sont restreintes à un petit groupe d'individus chez nous. La plupart des gens, vous savez, ils sortent de chez eux et puis leur problème, c'est qu'est-ce qu'il faut pour manger, comment, etc., etc. L'homme est parti, etc. Donc, tout ça, ça passe souvent très, 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 très loin de la majorité de la population. Et voyez-vous, le problème, c'est que pour ceux qui nous concernent, ici, nous sommes une population d'environ 400 000 habitants, venus pour l'immensité donc des champs de canne, majoritairement donc des descendants d'esclaves, et qui se trouvent dans une situation où il faut qu'ils arrivent à s'intégrer, à, en tout cas se situer dans cette société. Nous sommes entourés de d'autres groupes humains qui, eux, sont historiquement constitués, qui ont des mémoires fortes, qui sont capables de créer des stratégies communes. Mais vous avez compris que pour les Antillais, c'est quelque chose de compliqué. Chacun a sa théorie identitaire, donc c'est compliqué de pouvoir définir des stratégies communes. Donc, nous avons, nous avons donc mis en place, dans les années 2000, parce que on peut parler de tout ça, mais il faut bien sortir du code noir et de l'esclavage et de ses conséquences. Nous avons mis en place, en tout cas, la communauté antillaise a mené depuis les années 2000 une expérience qui a été basée sur l'acceptation de l'esclavage comme temps de fondation et qui s'est basée sur l'idée qu'en fait, on ne pouvait pas passer en dehors de ça. Vous savez, chez nous, on dit que les blessures des chiens, c'est avec les poils des chiens qu'on les guérit. Donc, on ne peut pas, si ça sent le caca, il faut aller dedans. Il faut d'abord aller dedans pour pouvoir s'en sortir véritablement. Mais ce n'est pas en l'évitant que vous en sortirez. Donc, nous avons pensé qu'il fallait avant tout partir de ça et inverser la valence du stigmate de l'esclave. Et cette expérience a pu se dérouler principalement grâce à la présence, dans notre petit groupe, d'une psychologue, qui était alors l'élève d'ailleurs de Toby Nathan, Viviane Roll-Romana, qui nous a fait comprendre une chose très simple, c'est que c'est bien les auteurs qui pensent pour nous, mais que nous étions, nous, les premiers spécialistes de notre identité et que nous devions en discuter et questionner les théories qui nous étaient proposées. Et donc, là, et en fait, qu'à travers notre fonctionnement, celui de nos familles, dans des groupes de parole de petite taille, de grande taille qu'elle a dirigés pendant près de 10 ans, eh bien, elle nous a fait découvrir l'aïeul esclave. C'est-à-dire, non pas l'esclave, mais le parent. Celui avec lequel nous étions en rupture. On a travaillé de 1994 à 2006, d'abord dans un petit groupe, puis après un grand groupe, des grands groupes de 400 personnes, de 30 personnes, pendant, je vous dis, près de 10 ans, plus de 10 ans. Et nous avons à ce moment-là fabriqué, ça nous a permis de fabriquer, parce que nous nous définissions là en tant que descendants d'esclaves, en tant que des outils mémoriels qui ont bouleversé notre point de vue sur notre identité, mais qui ont bouleversé aussi le point de vue de la République française sur notre identité, sur la mémoire de l'esclavage. Le point de départ, en fait, qui a changé notre vision, c'était qu'en fait, nous considérions les esclaves comme des parents. C'était nos parents. Et donc, cela, pour nous, changeait tout. Et il fallait donc mettre au point des outils pour réhabiliter leur mémoire. Et le point de départ visible de ce travail fut la marche du 23 mai 1998, dont vous avez une image là, 40 000 personnes qui défilent dans la rue, dignement, dans un silence étourdissant, point de revendication, point d'invective, point de chaîne, mais une marche qui annonce une démarche introspective qui allait durer et qui dure jusqu'à présent. Eh bien, l'inversion du stigmate demandait le travail introspectif, c'est vrai, mais aussi demandait que les autorités républicaines qui représentaient la nation, qui avaient mis nos aïeux en esclavage, mais qui aussi, la République en particulier, les avait libérés, eh bien, il fallait qu'elle les reconnaisse comme des humains, c'est-à-dire comme des victimes d'un système. Parce que seuls les bœufs, et encore, ne peuvent pas être victimes d'une abomination. Et encore, les bœufs, les chats et les chiens, on considère qu'ils sont des victimes. Mais les esclaves, c'est une catégorie indéterminée, non humaine. Et donc, il fallait absolument qu'elle les reconnaisse comme des victimes de l'esclavage et qu'elle les honore en tant que telles. Il n'y avait aucune raison, si nous étions des citoyens comme d'autres citoyens, qu'on honore les victimes d'autres crimes contre l'humanité et que les victimes de l'esclavage, 213 ans d'esclavage, ne soient pas honorées en tant que telles. Et donc, eh bien, elle a résisté, la République. Hein. Elle a résisté pendant 10 ans. Parce que elle, ce qu'elle commémorait depuis toujours, était l'abolition de l'esclavage. Parce qu'elle considérait l'abolition comme le temps fondateur. la fondation des Antillais, leur venue au monde et à la civilisation. Et donc, elle a résisté, elle nous a donné une date pour tous, le 10 mai, commémoration de l'abolition de l'esclavage. Mais vous voyez, nous n'acceptâmes cette date que lorsqu'elle accepta elle-même aussi la date que nous avions choisie pour honorer nos parents, le 23 mai. Et il fut reconnu en 2008 par le président Sarkozy. Ça, c'est la cérémonie au Sénat. Et il fut reconnu, le 23 mai, comme journée en mémoire de la souffrance. Alors, Sarkozy l'a reconnu cette journée comme mémoire en souffrance des aïeux des originaires d'outre-mer, souffrance qu'il ne fallait pas oublier. Ouais, c'est très alambiqué, mais enfin bref, c'était un pas important. Et là, le 10 mai 2013, le président Hollande déclara cette date était la date en mémoire des victimes de l'esclavage, ce que nous demandions depuis 1998, et que nous ne cessions de demander, et que nous aurions toujours demandé, parce que pour nous, c'était la réhabilitation de nos parents et le respect qu'on nous devait. Le président Hollande décida à ce moment-là officiellement la participation du gouvernement aux manifestations qui sont organisées le 23 mai. Alors un travail tout aussi important fut réalisé en direction des autorités de l'Église. Parce que ce soit l'État, que ce soit les Églises, elles ont eu un rôle dans cette abomination, dans son crime contre l'humanité. Et ce sont des puissances agissantes chez nous. Il faut donc qu'elles nous aident à renverser le stigmate. Notre seul travail ne suffit pas. Donc, on a pu constituer des cérémonies œcuméniques où l'ensemble des obédiences chrétiennes sont présentes et honorent la mémoire des victimes de l'esclavage. Ça se fait à Saint-Denis, nécropole des rois de France, qui nous ont mis en esclavage. Et nous honorons la mémoire de nos parents au-dessus d'eux. Mais il fallait aller plus loin. Il fallait que nous arrivions à réhabiliter le lien de filiation des esclaves avec nous. Et ce qui nous a permis de faire ça, c'est que nous avons exploité, à partir de 2006, les registres des nouveaux livres en Guadeloupe et les registres des actes d'individualité en Martinique. Et là, nous sommes partis de l'existence de la consignation de la grande nomination dont je vous ai parlé. Et nous avons, de 2006 à 2012, rapporté sur une base de données plus de 1,2 million, je dis bien, en 6 ans, vous avez une centaine de militants qui ont rapporté plus de 1,2 million d'items relatifs à l'identité des esclaves nommés et contenus dans ces archives. Prénom, matricule, nom attribué, âge à la nomination, jour de la nomination, habitation, nom du maître, sexe, ville de naissance, ville d'enregistrement, mariage, enfant, père des enfants, mère des enfants, etc. Tout ça a été soigneusement mis dans une base de données. Et afin de mettre en valeur ces personnes, eh bien, nous avons construit des outils. D'abord, un mémorial, qui est un ensemble de 300 panneaux, avec le prénom, le matricule et le nom des esclaves, et qui portaient nos noms. Puisque c'est les noms attribués. Donc un Antillais ne pouvait pas dire que son parent n'était pas esclave. Les noms étaient là. Et c'était son parent. Et comme souvent les prénoms ont été transmis de génération en génération, les gens avaient l'impression que c'était le nom de leur grand-père. Beaucoup de personnes ont eu l'impression que c'était le nom de leur grand-père. Nous avons... pour le moment, l'exposition est itinérante. Elle est SDF, sans domicile fixe. Mais ça nous permet de la diffuser partout. Et nous avons également ces deux livres, les noms de familles guadeloupéennes et les noms de familles martiniquaises, parce que nous voulions que ces personnes, par leur nom, soient présentes chez chaque Antillais, qu'elles protègent leur mémoire. Et également, nous avons fait un site internet en choucage, où en tapant, eh bien, cette base de données-là, un Antillais peut avoir immédiatement accès à l'origine de sa famille, de son nom, etc., etc. Alors, l'émotion a été toujours extrêmement importante. Hein, lorsque les Antillais ont été en contact avec leurs parents, immense émotion. C'est des dizaines de milliers d'Antillais maintenant qui ont pu avoir accès à cette histoire depuis 2006. On fait sous forme d'ateliers de mémoire sous forme d'émissions à la radio, sous forme donc d'expositions de ce type qui se font. Et dernièrement, nous avons suscité l'érection de monuments en mémoire de nos parents qui portent le nom des parents, que ce soit à Saint-Denis, que ce soit à Sarcelles, que ce soit en, là pour le moment en Guadeloupe, mais l'idée c'est que dans chaque ville de la Guadeloupe, de la Martinique, des monuments de ce type puissent être érigés parce, pour que les gens n'aient plus honte de ça. Et que devant ces monuments, les autorités puissent honorer, s'incliner devant la mémoire des victimes de l'esclavage. Et donc, pour nous, continuer ce travail, c'est de mise en exergue de la généalogie des esclaves des Antilles, c'est le plus grand respect que nous pouvons porter à nos parents. Alors voyez-vous, ce revirement, cette inversion du stigmate chez nous, nous a permis et nous permet petit à petit de concevoir notre mise en relation avec les autres de manière beaucoup plus apaisée. Quant au fond, nous avons entrepris un travail de réconciliation. Tout d'abord, réconciliation avec nous-mêmes, mais réconciliation avec la République, si elle accepte de reconnaître ce que nous sommes. Mais nous sommes en train de construire, et peut-être qu'il est dans la salle, il va intervenir tout à l'heure, nous sommes en train de construire aussi la réconciliation avec l'Afrique. Parce que vous imaginez bien que les parents, lorsqu'ils sont arrivés en Guadeloupe et en Martinique, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que les Africains les avaient vendus. Et donc le rapport à l'Afrique est un rapport extrêmement complexe. Donc nous devons faire un pas important. Et je ne dirai pas ce qu'on va faire parce que les choses ne sont pas encore... Je suis superstitieux. Les choses ne sont pas encore vraiment bien ancrées, bien en axe. Mais nous avons des rapports avec un certain nombre de pays, dont le Bénin, pour pouvoir construire et reconstruire des liens corrects et sains entre les descendants d'esclaves avec, justement, les Africains. Et puis, de toute façon, il nous faudra absolument reconstruire, avoir une attitude de réconciliation aussi avec les descendants d'esclavagistes. Ils vivent avec nous en Guadeloupe et en Martinique. Ils vivent avec nous. Et la perspective que l'on a dans tout ça, c'est que s'ils acceptent de comprendre qu'ils sont aussi, eux, des témoins de cette histoire de l'esclavage, comme nous le sommes, eh bien peut-être que dans nos pays, par exemple, un certain nombre de projets communs pourront se faire, dont nous serons fiers. Je pense tout simplement à une économie de type tourisme mémoriel qui donnerait en fait à ces territoires une vraie identité et qui ferait que les ruines de l'esclavage puissent être en fait revalorisées et que nous soyons assez fiers de cette histoire pour justement les valoriser et pouvoir faire vraiment du tourisme mémoriel. Au moins, ceci peut nous donner l'espoir de développer en fait des projets communs avec différentes composantes de la population des descendants d'esclaves et des descendants d'esclavagistes, et également des populations indiennes qui sont venues du fait de l'esclavage en Guadeloupe et en Martinique, qui sont également témoins de cette histoire. Et nous espérons que, en fait, ceci nous permettra de donner les bases qui pourront construire dans ces sociétés des projets qui pourront être déterminants pour leur avenir, pour leur identité et pour leur avenir. Voilà un peu tout le travail que nous... En tout cas, voici nos espoirs. Voici comment nous pensons peut-être, en tout cas, contribuer à sortir du code noir, qui est toujours actif, comme vous l'aurez compris, de cet esclavage qui nous a fabriqué, en tout cas, en sortir par le haut, un peu plus unis et un peu plus fiers de ce que nous sommes. Je vous remercie pour votre attention.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci de l'exposé. Moi, je suis guinéo-malien. Je n'ai pas vécu tout ce que vous avez dit, mais j'ai appris pas mal de choses. Je suis très, très ému. Je voulais juste faire un rappel aussi de ce que nous avons vécu comme conséquence de l'esclavage chez nous. Et personne n'en parle. Je suis Bambara. Bambara, en fait, est une ethnie qui est une conséquence d'un autre type d'esclavage. Bambara, le vrai sens, ça veut dire Bamana, c'est-à-dire quelqu'un qui a refusé le dogme qui a refusé l'esclavage. Sinon, Bambara, c'est Sunike. J'espère que je ne vous l'apprends pas. Ça vient du fait de ce type d'esclavage qui est venu du sable. Ouais. Le dogme qu'on a refusé, il y a une partie de la population Soninké qui a accepté de se convertir à cette philosophie, à cette façon de voir le spirituel. Je ne vais pas dire l'islam, c'est peut-être ça, ou c'est peut-être une influence d'une civilisation qui vient du sable. Donc eux, en désignant ceux qui ont refusé de traiter directement avec ces esclavagistes du Nord, indexaient leurs frères, disaient, ce sont des Bamana, ceux qui ont refusé le dogme. Et je voulais juste faire ce rappel et aussi m'associer à votre lutte. Je vous remercie.
Merci. Je suis très content de votre témoignage. Et je pense qu'en Afrique, il y a beaucoup de choses à dire, qu'il faut sortir des théories généralistes, etc., et voir la réalité. Vraiment, je vous remercie de ça.
Serge, tu as bien voulu citer donc la barbarie civilisation.
Alors, mais présente-toi, parce que je n'ai pas voulu écorcher.
Donc, je m'appelle Serge Troum, donc je suis né dans une ville à Saint-Étienne où il y avait beaucoup de gens qui descendaient esclaves, de gens persécutés de différentes nationalités. Je suis, après avoir été médecin, donc je suis libraire et j'ai eu l'occasion depuis des années, j'avais créé pour moi-même une science privée qui s'appelait la prétextologie. C'est la raison de ce titre barbarisation, parce que ce qui est très fréquent lorsqu'on fréquente les documents, lorsqu'on fréquente les images, on se rend compte d'une chose, c'est que les prétextes ont toujours été présents, notamment lorsqu'il y a des grandes questions taboues. La grande question, une des grandes questions taboues de l'esclavage, ça a été une question qui est un peu moins taboue maintenant. Il y a un mot qui est le mot de la spoliation. Spoliation de la liberté, spoliation d'identité, spoliation de la force de travail, spoliation de la dignité, spoliation de la vie quotidienne, spoliation de l'amour, spoliation des enfants. Et tout cela avec en grande partie des intérêts matériel très important, qui se retrouve, par exemple, si vous allez à la bibliothèque de... Je passe un peu de coq à l'âne, mais on va s'y retrouver. Si vous allez, par exemple, à la bibliothèque de cette maison, il y a un livre que j'ai procuré à cette bibliothèque, qui est un livre de comptabilité, de 1702, imprimé à Bordeaux. En comptabilité, la question, la personne pour agréer la comptabilité donne des exemples. Et c'est la première fois que quelqu'un dise ce qui se passe sur un bateau négrier. Les trois premiers jours, il décrit bien le danger de suicide. Et le quatrième jour, il dit qu'il faut, pour amuser les gens, leur sortir des violons. Mais surtout, le prétexte apparaît. Il doit dire que ce qui est très important, c'est de sauver leur âme. C'est-à-dire que ce n'est pas un péché de jeter les captifs par-dessus bord lorsqu'il y a un danger. Le péché n'est pas de les tuer, le péché est qu'ils ne soient pas baptisés en arrivant. Alors ce prétexte, la barbarie, donc on apporte la civilisation. Ça a été le cas pour les colonies. On apporte sa civilisation. Donc on nie l'existence d'autrui. C'est un mécanisme qui se retrouve dans toutes les persécutions, ce mécanisme se retrouve. En fait, c'est fait pour prendre. C'est un vieux réflexe, vous savez, dans tous les jardins d'enfants. Vous voyez des enfants qui sont un peu dominants, qui n'ont pas envie de travailler sur leur jeu et qui prennent le jeu des autres. Et le réflexe de prendre la propriété d'autrui est très répandu, mais il faut toujours un prétexte. Alors pourquoi cette barbarisation dont vous avez vu l'image? C'est que j'ai fait ce catalogue à partir d'images qui étaient là, qui étaient bien avant Tintin au Congo, bien avant les mensonges autour de Lumumba, bien avant au risque de se perdre, bien avant toute cette imagerie. C'était au quotidien. Vous aviez des gens, pour distraire les enfants, pour distraire les adultes, des images de à peu près 500 à 1000 dessinateurs différents qui racontent des histoires pour distraire. Et parmi ces dessinateurs, on retrouve tous les poncifs, toutes les plaisanteries, un jour il y aura des ministres nègres, etc. Et là, il y avait une seule personne qui s'appelait donc André Hélé, qui a fait ce dessin. Il est le seul, dans toute cette époque, entre 1890 et 1930, avoir posé la question. Barbarie, civilisation. Vous voyez, dans l'image, on voit la civilisation qui amène des bombes. Je ne sais pas si vous avez vu l'image. Et la barbarie, c'est les gens qui vivent tranquillement, en famille. Et donc ça, c'est le seul qui a rompu au début avec les prétextes. Le reste, c'est vrai que sans condamner qui que ce soit, il y a une espèce de facilité de se laisser aller à l'humeur ambiante, même de se moquer des gens qui ne peuvent pas toujours répondre. Et c'est une vieille constante, une très vieille constante, de beaucoup d'éléments d'humanité. Comme Serge avait remarqué, par exemple, un des premiers mots du Code noir, c'est pas aider les Juifs. Or, il y a un autre document, c'est un document qui maintenant est à la Guadeloupe, aux archives, qui est passé par moi. Et c'est un document, c'était les instructions du roi et de Sartine, de Louis XVI, pour gouverner la Guadeloupe en 1776. Premier article là aussi, là-bas les Juifs c'est loin, on les laisse tranquilles. Et deuxième, troisième, quatrième article, donc raison économique, tout de suite. Donc les colonies sont faites pour gagner de l'argent à métropole, pas pour gagner de l'argent. Au même moment, en 1776, l'année même où Louis XVI arme les insurgents, colonies révoltées contre l'Angleterre. Et autre élément, c'est ça qui était extrêmement étonnant dans ce document, Louis XVI, qui allait être guillotiné quelques années après avec le même mot, utilise, signé Louis XVI, utilise le mot tyran. Les maîtres se conduisent avec les esclaves comme des tyrans. Et donc là, il dit, malheureusement, on ne peut pas les punir, sinon ça ferait une révolte. Il dit aussi qu'en France, ce qu'on entend maintenant dans certains milieux politiques ou qui se croient politiques, il y a trop de nègres en France, parce que les gens amènent leurs maîtresses en France. Tout ce qu'on retrouve maintenant, c'est l'éternelle histoire, on peut le dire, de la mauvaise foi ou de la foi mauvaise, et qui vise à déstabiliser les gens par leur propre identité. C'est pour ça que Serge, le travail que Serge et avec tous ces gens-là font, c'est un travail qui a déjà été fait pour le mémorial des Juifs, pour d'autres. Et donc, alors le mémorial qui est actuellement en train de faire, ces images, la première image de barbarisation, sont visibles au mémorial, elles sont au mémorial de la Guadeloupe. Hein. Et donc là, c'est un travail de tous les jours, même vis-à-vis de nous-mêmes. Vous savez, il nous arrive à tous un jour de fatigue, un jour de petite lâcheté, où on peut aussi se laisser aller dans l'ambiance commune, à ne pas réagir à des propos. C'est même pas du racisme, c'est la négation de la propre identité. Parce que même, vous savez, ce qui est convenu d'appeler le petit blanc, il a l'impression que comme ça, il est un peu plus important lorsqu'il y a quelqu'un qui est derrière, qui est en dessous, et qu'on peut à loisir. Vous savez, c'est ce qui est passé aussi.
Je te demanderai, Serge, oui, parce que...
Voilà. Une dernière chose. On retrouve ça souvent. L'esclavage a été utilisé comme métaphore par les socialistes du 19e siècle. Et à juste titre, parce qu'il y a une loi en 1791, la loi Le Chapelier, qui empêchait les ouvriers s'assembler et de se défendre, qui est transformé en esclave jusqu'en 1864. Excuse-moi, Serge.
Merci de toutes ces informations. Et effectivement, Serge a des stocks de documents. Vraiment, c'est incroyable ce qu'il a dans... Je ne me rappelle pas bien de l'adresse, c'est près du Luxembourg. Vous pouvez lui demander, passez le voir.
Bonjour.
Bonjour, je ne vous vois pas.
Je suis là, je suis caché, je n'ai pas envie de me lever, mais je me cache à gauche, droite.
D'accord.
Moi, je suis obligé de me lever, mais...
D'accord, non, tu peux te rasseoir.
Ouais, j'aime bien, c'est discret. Je vais vous enchaîner, excusez-moi l'expression, je vais vous poser plusieurs questions, en fait, qui vont suivre un petit peu le lien de votre débat. La première, c'est, je reviens sur les actes de nomination. À un moment, lors de votre présentation, vous avez expliqué que l'administration française et coloniale était très 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 précise. Et enregistrer tout. Et vous expliquez depuis tout à l'heure que les actes ont pratiquement disparu. Mais est-ce que l'administration n'a pas gardé une copie? Ça, c'est ma première question. Ou est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose une disparition volontaire ou autre sur ces actes? Ou non? Ou tout simplement, ils ont vraiment disparu de la circulation? L'autre chose que je voulais vous poser comme question, c'était à aujourd'hui, est-ce que vous pensez, au travers de vos études et de vos projets et de tout ce que vous avez organisé jusqu'à présent, que les stigmates qui sont encore dans les îles actuellement, que ce soit économiques ou sociaux, ont encore une incidence et ont pour l'origine encore l'esclavage. Je ne vais pas trop développer parce que... Et la dernière question, si vous entendez bien, si vous vous souvenez des deux premières... Ce sera...
Je note.
La dernière, c'est aujourd'hui, depuis quelques années, j'entends beaucoup, venant de l'Afrique, que les Noirs auraient participé à la traite négrière, ce que je veux bien croire et ce que je suis tout à fait d'accord, puisque beaucoup d'historiens ont apporté des preuves. L'autre chose, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que ces fameux gens qui vendaient souvent des clans ennemis avaient vraiment conscience que de toute la barbarie qu'a engendré cet esclavage transatlantique, puisque c'était à cette époque, on n'avait pas Internet ni le téléphone ni autre pour savoir ce qui se passait donc vraiment sur les îles. Est-ce qu'ils avaient vraiment conscience ou c'était délibéré? Voilà, mais toutes mes questions, si vous les avez bien toutes notées.
Alors,
si vous l'avez bien compris aussi, excusez-moi, j'ai pas trop l'habitude de problème. Parler toujours devant
j'ai
beaucoup de
stylo.
Monde.
J'ai un stylo.
Non, c'est fini après, je m'arrête.
Alors, je ne sais pas pour les actes de nomination. D'ailleurs, je ne sais même pas si on leur donnait des actes de nomination. Cette remarque m'est venue en disant que l'administration française notait tout. C'est que lors d'un colloque qu'on a eu à La Rochelle, on parlait donc de ces registres, parce que vraiment, beaucoup de personnes ont travaillé là-dessus ici, hein, ils le savent, mais pour ceux qui ne savent pas, les gens ont été nommés. Il y avait 87 500 personnes à nommer en Guadeloupe. Il y en avait 70 000 en Martinique. Et donc, il fallait nommer les gens. Il fallait les nommer et il ne fallait pas prendre des noms de maîtres. Il ne fallait pas prendre des noms qui existaient précédemment. Il fallait inventer des noms. Donc, vous voyez déjà, c'était compliqué d'inventer des noms. Et là, par exemple, ma grand-mère, mon aïeule, Juliette, lorsqu'elle a été nommée, je me semble que j'ai dit qu'il y avait à peu près 70 personnes ce jour-là qui devaient être nommées. Mais il peut y avoir une centaine de personnes par jour et c'est une personne qui nommait. Et donc, elle, ce qu'elle faisait, cette personne, c'est qu'elle marquait consciencieusement sur des registres qui sont toujours là, qu'on appelle en Martinique les registres des individualités et en Guadeloupe les registres des nouveaux libres. Et ça, ça a été noté et on a pu travailler à partir de ça. Aux Comores, eh bien, aux Comores, en fait, où il y a eu de l'esclavage, les personnes qui étaient là, c'était donc des Arabes qui étaient là, eh bien, ils n'en étaient pas. Et donc, la Comorienne qui assistait donc au topo qu'on faisait avec docteur Emmanuel Gordien qui est là, qui est vice-président du CM 98 et responsable de l'activité donc sur les archives, eh bien, elle nous disait mais quelque part vous avez de la chance, hein, parce que vous pouvez trouver des traces. Donc les registres existent, les registres on les a, sinon on n'aurait pas fait le travail. Par contre, mais je ne sais pas si c'était vrai. Je me dis et je pose la question aussi à mes camarades qui travaillent avec moi sur ces questions, on peut imaginer qu'on leur donnait un document quand même. Parce que, je ne sais pas si vous doutez, j'imagine ma grand-mère qui arrive. On lui dit, tu t'appelles Romana. Elle part sans rien. Mais comment elle va s'en souvenir? Enfin, c'est pas évident tout ça. Donc moi, je me pose la question. Je me suis dit, on a dû leur donner des choses, parce que sinon les gens seraient revenus avec d'autres noms, ou, enfin, c'est pas possible, un truc comme ça. Donc, mais, en fait, j'ai pensé à cette question avant-hier, en fait, hein, en faisant le topo. Et je me suis dit, mais il doit normalement avoir des documents. Donc les gens ont dû recevoir des fiches, ils ont dû revoir des choses quand même. Et je me dis, mais, il n'y a pas un petit qui est resté quelque part? Alors, je ne sais pas. Donc, c'est de la spéculation. Hein. Ça ne concerne pas l'administration française. Ça concerne les hommes et les femmes qui étaient nommés là et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça. Mais ce que je sais et ce que nous savons, c'est que cette histoire n'était pas connue. Nous ne connaissions pas ça. Et nous ne connaissions pas ça, non pas parce que la France est mauvaise. La République, effectivement, on n'a pas, elle a sa part de responsabilité, ce que vous voulez. Mais la chose essentielle, me semble-t-il, c'est que ma grand-mère, ma bonne maman, n'a jamais parlé de sa mère. Je vous assure, ma bonne maman, on l'a connue. Nous sommes nombreux à l'avoir connue. À l'avoir connue à un âge... ma mère l'a connue. Ma mère l'a connue, elle l'a connue pendant très longtemps. Elle n'a jamais parlé de sa mère. Mes parents Romana ont inventé des histoires de nomination. Donc ça a été brouillé, manifestement. Donc je me dis, si on leur a donné quelque chose, je ne sais pas, mais moi je voudrais, il faut explorer ça quand même. Hein. Ça se pose cette question, quand même. Ça se pose. Bon, même si un papier, ça se perd. Hein. Je veux bien. Maintenant, pour la deuxième question, pour les stigmates. Voyez-vous, il y a une anthropologue qui s'appelle Christine Chivalon, qui travaille donc, qui est une chercheuse à Bordeaux, mais ça, qui a sorti un livre en 2012 sur la présence en fait de la mémoire de l'esclavage au sein des populations de descendants d'esclaves. Et elle prend un certain nombre d'événements. Elle prend en particulier un événement important en Martinique, c'est la révolte pendant 3 jours de septembre 1870, donc 20 ans après l'abolition de l'esclavage. Elle décortique cela, c'est extraordinaire d'ailleurs son analyse, elle décortique ça relativement bien. Il s'agit d'un événement qui oppose quant au fond des blancs et des nègres, et des mulâtres. Point. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que cet événement survient, cette révolte, le jour de la promulgation de la Troisième République. Et donc, au départ, c'était un Martiniquais qui marche dans la rue et qui rencontre un béquet sur son cheval, et le béquet lui dit de sortir dans la route. Il n'a pas à être là lorsqu'il passe. Il reste là. Et le type lui donne des coups de bâton. Et lui, quelque temps après, il répond: procès, galère, enfin, truc bon. Très bien. Installation de la République, cet événement, regardez ça bien, hein, c'est terrible. Cet événement, va émouvoir les gens, et il y aura une vraie insurrection dans tout le sud de la Martinique, rivière Pilote, etc. Et il y a des bandes constituées qui vont incendier, qui vont attaquer des anciennes habitations. Je ne perds pas le fil de ma question, hein, de votre question, j'y viens petit à petit. Et il y a un des propriétaires, celui qui avait toujours le drapeau blanc sur son habitation, qui s'appelle M. Codé. Eh bien, au bout de trois jours, évidemment, l'armée va éradiquer tout ça, et au bout de 3 jours, on trouve le sieur Codé haché dans un champ de canne et émasculé. Évidemment, grand procès. Il y a un des chefs dont je tirais le nom, et vous comprendrez pourquoi, qui n'est plus retrouvé, qui s'enfuit. Les autres sont arrêtés, les chefs sont condamnés, mais la République effectue une opération d'inversion du problème extraordinaire. Elle va dire, vous voyez, on condamne les chefs parce que ce sont des criminels, mais on amnistie les gens, on revient à zéro. Dans sa grandeur, la République, justement, elle va remettre les choses à zéro. Et elle va remplacer les termes de maître par république en disant que la république, elle est bienfaitrice, et elle va faire quelque chose d'inimaginable. Elle va transformer M. Codé en martyr. On va y installer une croix qui existe aujourd'hui en Martinique qui s'appelle la croix Codé, devant laquelle, jusqu'à aujourd'hui, il y a des processions qui implorent le pardon de Codé. Et des familles, je dis ce qu'il y a dans le livre, et des familles qui sont liées à cette histoire ont toujours le poids de ça aujourd'hui en Martinique. Alors, voyez-vous, ça c'est terrible. Je pense que ce n'est pas des stigmates. C'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est de la constitution. C'est beaucoup, parce que les stigmates ou des cicatrices, ça veut dire qu'on était comme ça et on a eu une maladie et il reste des choses. Mais je ne crois pas en ça. Je crois qu'un groupe a été refondé. Et il a été refondé avec des éléments constitutifs qui lui font réfléchir et agir d'une certaine façon. Et c'est tout notre problème. Donc oui, je pense que ça agit. Alors, les couleurs de la peau chez nous, en tout cas, moi, lorsque j'étais jeune et jusqu'à présent, ça agit fermement à des moments, c'est bien simple. Hein. Des choses qui sont extraordinaires. Lorsque j'étais étudiant, je jouais au tambour. Un jour, je débarque dans une veillée, dans un Les Roses. Je chante. Quand même. C'est à Vieux-Nègre, excusez-moi, c'est des choses de Vieux-Nègre, le tambour. Je chante. Je chante et il y a un type, c'était à Routier, à Capesterre. Il y a un jeune qui dit, à lui c'est un enfant de médecin. Il ne me connaît pas. Et c'est pas un devin. Je suis à l'hôpital. Je marche avec, je suis en blouse blanche, je suis médecin. Je marche avec un de mes confrères qui est plus foncé que moi. Les gens assis disent, lui c'est un infirmier, lui c'est un médecin. C'est constitutif, c'est terrible. Ça me fait renverser l'eau. C'est constitutif. Je pense que c'est constitutif et je pense que c'est un énorme problème. Et comme je rappelle la phrase que j'avais dit au départ, abolir ce n'est pas guérir. Concernant la question de l'Afrique, moi j'aurais aimé que des Africains parlent de cette question. J'ai pas tellement envie de parler de ça parce que on peut penser telle chose. Mais je crois que si vous prenez par exemple ce qui se passe depuis 92 au Bénin, il existe une prise de conscience terrible de la question de l'esclavage parce que il y a des anciens esclaves qui sont retournés au Bénin, qui étaient esclaves au Brésil, sont retournés, et qui sont en problème avec des familles qui ont vendu leurs parents aujourd'hui au Bénin. Et il y a toute une politique de réconciliation qui est en œuvre aujourd'hui au Bénin. Il y a des cérémonies du pardon. Il y a des objets qui ont été posés, il y a des actes qui ont été posés, des objets qui ont été fabriqués par rapport à ces questions. Donc, je laisserai, et j'espère que ça viendra, des historiens d'Afrique parler de ça. Nous, ce qu'on a appris par les historiens parce que nous avons une université populaire où les cours d'histoire sont faits à la Sorbonne, ce qu'on a compris, c'est que l'esclavage colonial est une entreprise mondialisée qui met en synergie des élites européennes, des élites africaines, des élites indiennes, des élites arabes. C'est une mise en relation entre eux, et ils la font. Parce que vous comprenez, l'Afrique n'était pas en guerre avec les Européens, les Africains ne sont pas cons. Ils étaient des empires, il y avait des armées, il y avait ce que vous voulez. Très vite, les Européens ne sont pas rentrés là comme ça. L'Afrique est devenue colonie, après l'abolition de l'esclavage d'ailleurs.
Merci beaucoup Serge Romana pour cette conférence. Merci à tous.